participer et d'être venu à cet atelier guérir et après. Pour ce faire, nous allons accueillir, elles ne sont que deux pour l'instant, mais nous espérons l'arrivée tout à l'heure de Jean-Christophe Minot, qui va avec Céline Lefebvre nous parler aussi de cancer. Donc, c'est une thématique où le cancer est un peu au cœur de la thématique. Et je vais tout de suite donner la parole à Madina Kéré, qui va nous parler des femmes jeunes soignées d'un cancer du sein et basée sur une étude approfondie. Donc sans plus attendre, tu as 20 même presque 25 minutes, parce qu'on a un peu plus de temps du coup.
Merci beaucoup. Je vais essayer de rester 20 minutes, parce que ce serait bien qu'après on ait les discussions avec les thématiques suivantes, d'autant plus qu'on a... tu as précisé peut-être qu'on a un intervenant en moins.
Ah oui, pardon, oui. Un intervenant. Donc on a un peu plus de temps, mais du coup on va consacrer à la discussion et puis qu'on va profiter pour discuter, et en espérant que Jean-Christophe Minot arrive, et puis s'il n'arrive pas, on aura un peu plus de temps pour discuter.
Tout le monde m'entend ? Ça va ? Bon. Alors je vais vous restituer une partie d'une étude qui a été faite, initiée par... il manque une partie. Par Véronique Régnier-Denoir. Qui était sur les questions d'information du patient et les stratégies de réinsertion sociale après un cancer du sein non métastatique. Alors, il y a une équipe, parce qu'il y a tout un volet fait par Linge Chen et Thibault Montero sur un descriptif du système dans l'organisation au sein des structures de soins qu'on n'évoquera pas ici sur ce sujet-là. Donc, c'était initié suite au plan cancer de 2009-2013 avec les mesures phares qui avaient pour objectif de faire bénéficier 50% des patients en moins d'un programme personnalisé de l'après-cancer, avec une notion aussi de questionnement des inégalités de santé. Donc là, on va vraiment avoir un propos plus spécifique sur le ressenti et les représentations des femmes de cette période. J'en profite pour préciser qu'effectivement, dans les deux structures, il y a une comparaison dans les deux structures, une en Rhône-Alpes et une en Aquitaine. On est dans des institutions qui ont un accompagnement extrêmement élaboré, avec des équipes qui sont de l'opérationnel et en accompagnement pour les patients. Donc, des structures qu'on peut considérer comme modèles, avec un fort axe sur le cancer du sein. Alors, dans les dispositifs, il y a des consultations d'annonce, des dispositifs de soins de support en cancérologie, des infirmiers pivots, avec tout un protocole qui demande aux oncologues systématiquement de proposer une consultation après avec un infirmier pivot et un accompagnement. Avec ce processus, malgré tout, on n'a pas tout à fait 50% des personnes qui bénéficient d'une consultation par la suite, pour plusieurs raisons, parce que certains oncologues ne le proposent pas, d'autres parce qu'il y a eu au préalable une radiothérapie qui fait qu'ils ne sont pas considérés comme un premier patient. Donc, juste pour vous situer le contexte dans lequel on va entrer dans l'après-soin, qui va être le sujet de maintenant. Donc, nous souhaitions repérer ces processus qui pouvaient conduire à des inégalités de recours, et puis confronter les objectifs de l'organisation avec cette question de réinsertion sociale après les soins. Ce qu'on appelle période après les soins va concerner, après le dernier soin donné au milieu, dans le cadre hospitalier, une radiothérapie ou une chimiothérapie, puisqu'il peut y avoir d'autres soins qui vont suivre pour traiter des effets secondaires ou de l'hormonothérapie, ce qui est assez fréquent dans tous les cas que nous avons rencontrés. Donc il y avait deux volets, cette étude descriptive et comparative que j'ai juste évoquée là rapidement, faite par nos deux collègues, et puis une partie qualitative sur les deux sites. Alors comme vous le verrez, c'est très étendu dans le temps, non pas volontairement au départ. Il fallait du temps pour recruter tout de même les profils que nous souhaitions rencontrer. Ça a mis un certain temps, on est passé par les oncologues et des radiothérapeutes qui, de façon systématique, ont proposé aux patientes de nous rencontrer avec tout un protocole d'accord, de relance, leur laisser du temps de réflexion. Et nous avions aussi repéré, on a utilisé les scores EPIS pour diversifier le statut socio-économique des personnes. Pour voir, c'était un des sujets d'hier, si le facteur de précarité pouvait avoir un impact sur ce processus par la suite. Donc, la durée est qu'en fait, ma collègue en Rhône-Alpes a eu un contrat entre-temps et a dû décaler son terrain par rapport au mien. On n'a pas passé 2 ans à rencontrer ces personnes. Et méthodologiquement, on avait choisi de proposer aux femmes un entretien individuel ou un entretien en petit groupe de 3 à 4 personnes. Ce qui a été fort intéressant, parce qu'on s'est aperçu que la majorité des femmes ont plutôt opté pour le focus group. On ne s'attendait pas à ça. On a eu quand même beaucoup d'entretiens en individuel, mais non pas par choix, mais parce qu'elles n'arrivaient pas à caler le rendez-vous en focus group, et la tendance majoritaire était plutôt sur ce système-là. Pour une raison qu'elles ont clairement exprimée, c'est qu'elles souhaitaient et avaient envie de partager leur expérience avec d'autres femmes. Je vais revenir à la fin dans ce qui est assez, très classique hein, en anthropologie, mais j'insiste dessus parce qu'on a vu l'importance que ça pouvait avoir pour elles. Le fait d'être interrogées sur leur parcours, leur expérience, elles exprimaient spontanément que du coup, elles voulaient que ce qu'elles allaient dire dans cet entretien soit utile, serve pour les autres patients. Donc se positionner en tant qu'actrice du partage d'un savoir qui puisse être bénéfique pour autre chose. Donc ça, je reviendrai dessus justement sur les rapports aux associations et à leur implication ou non-implication, justement. C'est juste les diapos. Excusez-moi, je n'ai pas les mêmes numérotations des diapos, du coup j'avais quelques notes. Alors dans ce que je vais présenter, on va retrouver beaucoup ce qui a été présenté hier par Lucie Lerouet, qui elle travaille sur plusieurs catégories de cancers et qui concerne ici précisément les cancers du sein. Alors dans ce qui ressort systématiquement, c'est que il y a une rupture dans cette deuxième temporalité qui est l'après dernier soin dans le cadre hospitalier et qui est un temps où ressurgit finalement tout le vécu et de la maladie et du soin. Alors on le retrouve chez toutes les personnes de façon systématique et qui expliquait que quand ça s'arrête, donc elle parle des soins, moi perso j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Il faut vivre avec les transformations dans notre corps qui ne sont pas toujours évidentes. Ou une autre femme encore qui exprime « Moi je pensais qu'une fois que le traitement était fini, c'était bon ». Et forcément, on a le contre-coup. Enfin, psychologiquement, on se dit « Oui, ça y est, il n'y a plus de soins. » On a l'impression d'être lâché. C'est une période où elles ne sont pas lâchées intégralement, puisqu'elles ont normalement un accompagnement par le médecin libéral ou le gynécologue, et puis avec des rencontres de temps en temps, mais très espacées avec les oncologues dans le service. Cependant, il n'y a plus cette temporalité extrêmement régulière qui a été évoquée hier, où c'est très cadré. Et là, il y a un espace qui est un retour à un rythme qui n'est plus encadré par l'équipe médicale. Par ailleurs, s'ajoute un sentiment extrêmement fort de fatigue, particulièrement chez les femmes qui ont suivi une chimiothérapie. Et elles exprimaient toutes, on disait que ça va se calmer. En fait, ça ne se calme pas, j'en peux plus dans la journée. Cette fatigue-là est extrêmement présente dans le discours et handicapante. Elles entravent toute leur réinsertion à leur vie familiale, à leurs activités quotidiennes, dont les activités sportives qui font partie des recommandations, qui sont extrêmement difficiles à enclencher et qui vont se croiser avec une multitude d'effets secondaires qui, eux, n'ont pas été annoncés. Autant dans la phase préalable de soins accompagnées, on les a très bien, elles expriment toutes avoir été extrêmement bien informées sur les effets secondaires, quoi faire pour contrer ces effets secondaires, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, mais elles pouvaient en parler tout le temps et ils étaient pris en charge et accompagnés. Dans cette étape-là, elles découvrent des effets secondaires dont on ne leur avait pas du tout fait état avant, et ce qui a énormément d'impact, parce qu'ils sont importants, et ils sont très douloureux. Donc, dans ce qui a été formulé, il y avait beaucoup de douleurs articulaires. Elles les verbalisent comme des coups de couteau qu'elles ressentent, ou des vertiges le matin où elles tombent du lit. Ce ne sont pas des effets secondaires anodins. Cependant, il y a la prise de poids qui est aussi très importante parce qu'elles évoquent ne pas s'y attendre du tout. L'association de la maladie le cancer est associé à une perte de poids. Donc le fait, tout d'un coup, de grossir est quelque chose qui est très difficile à vivre pour elles, parce que c'est quelque chose dont on n'aura pas, en tout cas, dont elles indiquent toutes ne pas avoir été informées et suffisamment. Alors elles voient des diététiciens pour essayer de les accompagner, qui est proposé dans la structure de soins. Et malgré tout, ce qu'elles évoquent, c'est que malgré les régimes, malgré tous les efforts qu'elles voudraient faire, qui sont difficiles à faire du fait de la fatigue, donc c'est un cumul, elles ne maigrissent pas et elles voient ce corps changer, se cumulant avec une repousse de cheveux souvent qui est aussi particulière, ce ne sont pas les mêmes cheveux qui reviennent. Donc il y a une cumule d'éléments qui rend cette réappropriation du corps, de l'après-soin, très difficile. Cette notion d'après-soin est à questionner aussi, parce que c'est après le soin hospitalier, puisqu'elles sont encore quand même dans du soin, du besoin de traitement, d'hormonothérapie souvent. Et ce qu'elles évoquaient, c'est que dans ce rapport à ces réactions du corps, elles le partageaient très peu avec l'équipe médicale, parce qu'on n'est plus dans les effets secondaires des traitements. Elles ont un effet secondaire d'un après-soin hospitalier qui n'a, selon elles, plus toute sa légitimité. Alors, c'est selon elles. Cependant, les femmes qui évoquent l'avoir discuté avec le soignant, elles disent que finalement, ils ne savaient pas quoi apporter comme solution. Et elles ont un ressenti que se minimiser et que la place à ces effets corporels n'est pas donnée. Alors, au niveau des oncologues, on a eu quelques échanges, ils évoquent l'aborder, mais qu'effectivement, ils ne savent pas quoi faire, qu'apporter comme solution. Donc il y a cette rencontre-là, qui est une hypothèse à approfondir, parce qu'on l'a juste évoquée avec les oncologues, mais est-ce qu'on n'est pas à un endroit où, du fait de ne pas maîtriser le processus thérapeutique tel que c'était le cas sur les radiothérapies, les chimiothérapies au préalable, il y a un espace où la réponse pour l'équipe médicale n'est pas claire et qui laisse la femme seule avec la gestion de ses douleurs, ses effets secondaires. Lorsque les complications sont très importantes, ce qui a été le cas chez un certain nombre de femmes, on a eu beaucoup de personnes qui ont évoqué des tendinites extrêmement aiguës, au point qu'elles sont à nouveau en arrêt maladie. Donc, ce qui va avoir un impact, on va l'évoquer tout à l'heure, ostéoporose, des staphylocoques, des œdèmes lymphatiques, qui sont tellement importants qu'ils entravent leur processus, soit sportif, mais aussi de reprise du travail, qui est un des éléments importants dans cette phase. Alors, voilà, je vous situe rapidement, c'est considéré comme secondaire, nous on se sent diminué, alors en plus la prise de poids c'est la totale, parce que cumul, ça atteint quand même. Le docteur m'a dit que j'allais commencer à maigrir, que le corps commence à s'y faire. Moi, je n'ai pas vu le changement. Je me trouve grosse. C'est difficile à accepter. Donc, on a ces femmes qui ont ce rapport à un corps douloureux qui est inattendu, puisqu'elles pensaient vraiment passer à une autre étape, plus accompagnées, tel que ce fut le cas dans la phase précédente, et où normalement, elles doivent reprendre une activité professionnelle, ce qui va aussi faire partie de ce processus de sortie de la période qu'on appellerait de maladie, qui est dans un processus d'une nouvelle phase qui serait celle, si on reprend l'intitulé d'ici, de guérison, mais qu'on va re-questionner. Et on trouve dans cette relation au travail des situations extrêmement diverses et complexes, certaines n'ayant pas pu reprendre le travail. Ce qu'on a pu avoir, qui pose aussi question, ce sont certaines femmes en radiothérapie qui ont poursuivi leur activité professionnelle plus fréquemment et quelquefois aussi avec un traitement de chimiothérapie. Et on en a eu très peu, mais ces personnes-là évoquent une reprise au travail plus simple, parce que les horaires avaient déjà été aménagés pour les chimiothérapies. Et ce qui a été compliqué pour elle, qui est intéressant aussi, c'est que cette démarche de poursuivre le travail n'est pas du tout encouragée et accompagnée par l'équipe médicale. Alors, il est compliqué de poursuivre en chimiothérapie un parcours professionnel, mais dans cette démarche qui est leur choix, elles n'ont pas été accompagnées, ce qui est aussi compliqué et lourd à gérer pour elles. Et pour d'autres, La reprise progressive du travail est effectivement extrêmement importante. Toutes les femmes exprimant subir cette transformation du corps difficile et cet épuisement qui est vraiment le terme essentiel, une reprise directe du travail est généralement associée à une absence d'aménagement de la fonction et de son travail. Et c'est souvent des personnes qui étaient à faible revenu et qui avaient un faible pouvoir de négociation avec leur patron et qui ont extrêmement mal vécu cette réintégration professionnelle, avec pour conséquence des arrêts maladie assez fréquents qui ont développé d'autres pathologies. Donc ça a une conséquence directe sur leur possibilité de retravailler. Alors qu'à l'inverse, des personnes qui ont réussi à collaborer avec l'équipe professionnelle pour réaménager le temps de travail, ça s'est passé de façon beaucoup plus douce, ce qui n'enlève pas des arrêts de travail avec les effets secondaires dont on a parlé tout à l'heure. Bon, ce qui questionne aussi tous ces sujets du droit à l'oubli, effectivement, le travail, ça pose, avec les questions de la science, elle est évidente. Avec la question du travail, comment ça s'accompagne, c'est à interroger vraiment. Et toute cette dimension de sphère sociale qui accompagne ce processus. Alors au niveau familial, dans la plupart des entretiens, il y a un fort rapprochement qui s'est créé, une solidarité dans le noyau familial, au couple, mais aussi avec les enfants très souvent, même si on va pointer à notre thème après. Ce qui est extrêmement fort parce que le couple est très important dans ces situations, parce que ces femmes, ce qui a été évoqué hier, parlent toutes d'une nouvelle étape dans leur vie, dans ce moment de l'après-soin, étant donné qu'elles sont confrontées à la maladie et qu'elles réalisent ce qu'elles ont traversé. Il y a aussi le rapport à réaliser la morbidité de la pathologie, et elles disent toutes que c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle étape de vie, et elles ont, dans cette étape-là, besoin de ce soutien, et elles vont être plus attentives aux autres, mais aussi à la façon dont les autres sont attentifs à elles. Donc il y a une interaction qui se joue. Il y a eu dans les entretiens deux femmes qui avaient eu des ruptures, qu'elles ont associées à la pathologie, ou une reconstruction ou pas, mais c'est le cas. Il y a d'ailleurs beaucoup d'interrogations chez toutes les femmes qu'on a vues dans ce processus de questionnement sur les raisons de leur cancer qu'elles associent toujours à un parcours de vie. Donc il y a des trajectoires de vie qui se reconstruisent. Et puis, ce qui était la relation aux enfants, elle est très forte dans leur discours à la famille. En revanche, ce qui était très étonnant et intéressant, c'est qu'elles exprimaient toutes ne pas avoir été sensibilisées et accompagnées pour parler à leurs enfants. Et ça, c'était quelque chose de très important dans ce vécu après. Il a de l'importance pendant, mais comment on reconstruit et on continue avec la façon dont les enfants ont vécu la maladie de leur mère. Il y avait une vraie thématique ici à questionner. Et un autre élément important, c'est le relais associatif, qui était très peu exploité. Absolument aucune femme n'avait un contact avec un relais associatif. En revanche, elles étaient toutes très bien informées de leur existence. Alors, on avait... c'est un questionnement que je vais mettre en conclusion, parce que j'ai plus que 5 minutes, donc j'avance. Elles exprimaient, elles, ne pas avoir l'énergie, tout simplement, un épuisement. Elles s'étaient surestimées pendant les soins. Je me sentais très forte, on pense qu'on y arrivait toute seule. Et puis blanc, on s'écroule. Je n'ai même pas la capacité d'aller voir une association, de faire la démarche. Ça concerne aussi les psychologues, c'est la même chose. Ou elles ont une forte mésestime et qui rejoint aussi cette sensation de fatigue. J'étais complexée moi-même, j'avais grossi, j'avais pas de vêtements. Le fait rien que de m'habiller, je pleurais. Donc elles sont à bout et elles n'ont pas l'énergie pour impulser une rencontre avec une association. Rentre la notion de distance. La plupart des personnes qu'on a interrogées habitent, puis ce sont des centres de référence à 20, 30, 50 km, 200 km parfois. Donc il faut faire ces déplacements. D'une part, ce déplacement est associé aux soins en milieu hospitalier, puisqu'au préalable, elles l'ont fait longtemps pour faire, elles n'en ont plus envie, n'ont pas envie de retourner dans ces structures maintenant. Et c'est ambigu, parce qu'en même temps, elles ont envie d'être accompagnées, mais elles évoquaient, s'il y avait quelque chose à côté de chez moi, j'irais peut-être. Donc ça, il ne sera pas. Et j'ai mis offre non appropriée dans la forme. Donc ça, c'est une question. mais qu'on retrouve... je passe sur le recours psychologique parce que c'est la même logique que précédent. Juste dire que parmi les femmes qui ont vu un psychologue, ce sont des psychologues qui systématiquement leur ont rendu visite pendant une chimiothérapie, se sont présentés à elles et ont introduit un lien. Lorsque ce lien n'a pas eu lieu, elles n'ont pas fait la démarche par la suite d'aller voir quelqu'un. Et que celles qui ne l'ont pas fait expriment toutes du regret, elles sentent qu'elles en auraient besoin, mais le fait d'acter, d'enclencher cette démarche, c'est pas possible. Je vais associer la suite. Alors, du coup, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. On a... Ah, c'est dommage parce que c'était important. C'est ce que... ah, zut, c'était... Bon, tant pis. Donc, en questionner, c'était la thématique, cette... Alors, j'exprime ces ressentis de guérison, puisque... est-ce que le médecin... On les a questionnés sur comment vous sentez-vous à l'heure actuelle, sans inclure de terme. Ce qui nous a énormément étonnés, qui n'est pas la même logique que celle qu'a évoquée Lucille Arouet hier, c'est que la plupart ont dit que le médecin leur a dit qu'elles étaient guéries. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, peut-être qu'elles passent à autre chose, dans une autre étape. Cependant, toutes peuvent le formuler, mais elles disent voilà, « moi j'ai une épée d'Amoclès constante, c'est la formule qui revient constamment, qu'on a eu hier aussi, et elles sont au quotidien, elles ont déjà plein d'effets secondaires, plein de symptômes physiques qui les accompagnent constamment, et donc chaque symptôme est source d'anxiété, puisqu'elles ne savent pas si c'est un symptôme lié à l'après-soin, à ce qu'elles sont en train de prendre comme traitement, ou une résurgence de symptômes d'avant. Donc il y a toute cette... incertitude qui est quotidienne et qui a un impact sur leur façon de pouvoir être actrice de cette suite et de se réapproprier une nouvelle étape. Alors, il y a deux personnes qui évoquaient ne se sentir ni en rémission ni guérie parce que le médecin n'a absolument rien formulé et qui exprimaient une source d'angoisse encore plus grande que les autres personnes que nous avons interrogées. Alors, c'est une citation, enfin, une femme qui disait, c'est quoi en rémission? Ça peut revenir, je sais que je l'ai eu une fois, je peux l'avoir deux fois. Alors, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est ma phrase, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Je ne suis pas innocente, quand ça vous est arrivé, ça ne vous met pas à l'abri d'en faire un deuxième. Je trouve que ça synthétise assez clairement ce que ressentaient toutes ces femmes. On a... Donc, en conclusion, même si je n'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais ça reste dans la discussion, on a des éléments très forts qui ressortent, et qu'on évoquait, c'est vraiment les deux temporalités, celle de ce soin, une prise en charge extrêmement encadrée, et puis un après-traitement qui est tout de même accompagné, mais où il y a plus, il y a un éclatement du cadre, finalement, quelque part, suivi, et qui induit chez ces femmes de devoir gérer tout seule. Alors ça, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, si c'est quelle formule, nos effets secondaires, ils sont douloureux, on ne partage pas avec le médecin parce qu'on doit le gérer toute seule. Maintenant, c'est à nous de gérer ça. Elle ne gère pas vraiment. Donc, il y a beaucoup d'utilisation, ça, je l'ai pas dit, aussi de traitements non allopathiques, donc, des plantes, des tisanes, avoir recours à d'autres éléments, qui sont, entre parenthèses, déjà présents dans le centre où j'allais. Il y a par exemple les radiothérapeutes conseillent d'aller voir des brûleurs de feu suite aux radiothérapies, certains oncologues, des coupeurs de feu, excusez-moi, des oncologues proposent des accompagnements homéopathiques, donc il y a déjà un processus en amont et qui là se développe d'autant plus. Donc on a une phase avec une forte émergence du vécu de la maladie et des soins. Un corps physique et psychique qui subit encore des effets secondaires sans proposition d'accompagnement. Et cette notion d'incertitude qui était importante, qui a pour impact quand même un fort isolement. Alors, je dis juste encore quelque chose, ça y est, ça me revient. C'était l'importance du rapport de ces femmes à l'isolement et du rapport au regard social. Dans toute cette phase, il y a une grande complexité pour elles de se retrouver face aux autres, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, de leur entourage, qui, soudain, n'évoquent plus leur maladie. Alors, c'est ambigu, parce qu'à la fois, elles ont besoin qu'on sache qu'elles sont encore fragiles, qu'elles ne sont pas encore en état Alors, poser les questions d'être guéri, d'être sorti de la maladie, ce n'est pas le cas. Et en même temps, elle n'est plus évoquée. Et dans ce qu'elles évoquaient, c'est que le fait qu'elles grossissent était un des marqueurs aussi qui perturbe ce rapport à la perception de la maladie. Quand on est amaigri, on voit la fatigue fragilisée et les autres prennent soin. Le fait qu'elle grossisse, c'est un indicateur qui est en contradiction avec la représentation de la maladie et qui pose vraiment la question de leur statut de malade ou de non plus malade. Où est cette frontière-là ? Elle pose réellement question. Il n'y a pas une limite, il y a un processus qui n'est pas du tout terminé, mais qui, elle, n'est pas claire pour ces personnes-là dans le processus dans lequel on les place. Et je dis juste que le temps de parole, quand on évoquait, j'ai vraiment fini, on a fait des entretiens qui ont duré entre 2h30 et 4h. Et la nécessité d'être entendue et actrice, de pouvoir raconter, témoigner, est extrêmement importante. On l'avait ressenti avec des patientes, moi je l'ai ressenti encore plus fortement qu'avec des patientes du VIH, c'est quand on a pu travailler, où là, elles se sentent vraiment isolées et que c'est enfin, on va les rendre actrices, leur donner la parole et qui va faire le rebond, je pense, avec les associations. Quel statut on leur donne dans les associations autant pour le VIH et Ebola, on leur donne un statut d'acteur, c'était posé ce matin. Et là, ce n'est pas le cas dans ce qu'on a rencontré.
Merci beaucoup.
Comme ça, il n'y a pas de questions.